Chapitre 60. Ce que nous ne pouvons avoir. La mort est ma vie. La force devient ma faiblesse. Le voyage a pris fin. Daté de Bétabane 1173, 95 secondes avant la mort. Sujet, une érudite jouissant d'une petite renommée. Échantillon de deuxième main, estimé douteux. Voilà pourquoi, père, dit Adeline, vous ne pouvez pas abdiquer en ma faveur, quoi que nous découvrions au sujet des visions. Ah, vraiment ? Demanda Dalinard, souriant pour lui-même. Oui. Très bien, tu m'as convaincu. Adeline s'arrêta net dans le couloir. Tous deux étaient en chemin vers les appartements de Dalinard. Celui-ci se retourna vers le jeune homme. Vraiment ? Demanda Adeline. Je veux dire, j'ai réellement remporté une dispute contre vous ?
Oui, répondit Dalinard. Tes arguments sont valides.
Il n'ajouta pas qu'il était parvenu seul à la même décision.
Quoi qu'il arrive, je vais rester. Je ne peux pas abandonner ce combat maintenant.
Adeline afficha un large sourire.
Cela dit, ajouta Dalinard en levant le doigt, j'ai une condition. Je vais rédiger un ordre, authentifié par la plus haut placée de mes scribes et certifié par Elokar, qui te donne le droit de me destituer si je devenais mentalement instable. Les autres camps ne doivent pas l'apprendre. Mais je refuse de courir le risque de devenir assez fou pour qu'il soit impossible de me remplacer.
D'accord, répondit Adeline en s'approchant de Dalinard. Ils étaient seuls dans le couloir. Je peux l'accepter, à condition que vous n'en parliez pas à Sadeas. Je ne lui fais pas confiance.
Je ne te demande pas de lui faire confiance, répondit Dalinard en ouvrant la porte de ses appartements. Tu dois simplement le croire capable de changer. Sadeas était autrefois un ami, et je crois qu'il peut le redevenir.
Les pierres de la pièce spirigantée semblaient retenir le froid de ce temps de printemps. Il refusait toujours de céder la place à l'été, mais au moins ne l'avait-il pas cédé à l'hiver non plus. Eltebar avait promis qu'il n'en serait rien, mais d'un autre côté, les promesses du Fulgicien étaient toujours pleines de mises en garde. La volonté du Tout-Puissant était mystérieuse. Et l'on ne pouvait pas toujours se fier aux signes. Il acceptait désormais les Fulgiciens, bien qu'il ait rejeté leur aide lorsqu'ils avaient commencé à devenir populaires. Aucun homme ne devrait chercher à connaître l'avenir, ni à se l'approprier, car il n'appartenait qu'au Tout-Puissant en personne, et Dalinard se demandait comment les Fulgiciens pouvaient effectuer leurs recherches sans lire. Ils affirmaient ne pas le faire, mais il avait vu leurs livres remplis de glyphes. Les glyphes. Il n'était pas censé être utilisé dans les livres. C'était des images. Un homme qui n'en avait encore jamais vu pouvait malgré tout comprendre leur signification en fonction de leur forme, ce qui différenciait l'interprétation des glyphes de la lecture. Les Fulgiciens faisaient beaucoup de choses qui mettaient les gens mal à l'aise. Malheureusement, ils étaient tellement utiles. Savoir quand une tempête majeure allait frapper, c'était un avantage bien trop tentant. Même si les Fulgiciens se trompaient fréquemment, ils avaient raison, le plus souvent. Rénarine était agenouillée près du foyer et inspectait le fabrial qu'on y avait installé pour réchauffer la pièce. Navani était déjà arrivée. Elle était assise au secrétaire surélevé de Dalinard et y rédigeait une lettre. Lorsqu'il entra, elle le salua d'un geste discret de son calam. Elle portait le fabrial qu'il l'avait vu arborer lors du festin quelques semaines auparavant. L'engin aux pattes multiples était attaché à son épaule, serrant le tissu de sa robe violette. « Je ne sais pas, père, » dit Adeline en fermant la porte. Apparemment, il pensait toujours à Sadeas. « Je me moque bien qu'il soit en train d'écouter la voix des rois. Il le fait simplement pour que vous vous intéressiez moins aux attaques de plateau, afin que ses clercs puissent lui attribuer une plus grande partie des cœurs de gemme. Il est en train de vous manipuler. » Dalinard haussa les épaules. «
Les cœurs de gemme sont secondaires, mon fils. Si je peux reforger une alliance avec lui, alors elle en vaut n'importe quel prix. D'une certaine façon, c'est moi qui le manipule. »
Adeline soupira. « Très bien, mais je vais tout de même garder la main sur ma bourse chaque fois qu'il est dans les parages. »
« Essaie simplement de ne pas l'insulter, » dit Dalinard.
« Ah oui,
Autre chose, j'aimerais que tu sois particulièrement prudent avec la garde royale. S'il y a des soldats dont nous avons la certitude qu'ils me sont loyaux, charge-les de surveiller les appartements des Locard. Ces propos au sujet d'une conspiration m'ont inquiété. Vous ne leur ajoutez tout de même pas foi ? Demanda Adeline. Il s'est effectivement passé quelque chose d'étrange avec son armure. Toute cette histoire empeste la vase de Crémon. Peut-être qu'on découvrira en fin de compte que ce n'était rien. Pour l'instant, fais-moi plaisir.
Je me dois de faire remarquer, intervint Navani, que je n'aimais pas beaucoup sa déesse lorsque Gavilar, lui et vous étiez amis. Elle termina sa lettre avec un grand geste.
Ce n'est pas lui qui se trouve derrière ces attaques contre le roi, dit Dalinar.
Comment pouvez-vous en être certain ? Demanda Navani.
Parce que ce n'est pas sa façon de faire, répondit Dalinar. Sa déesse n'a jamais voulu le titre de roi. Être haut prince lui donne un grand pouvoir, tout en lui laissant un bouc émissaire en cas d'erreur majeure.
Dalinar secoua la tête.
Il n'a jamais tenté de prendre le trône à Gavilar, et il se retrouve dans une position encore meilleure avec Elokar.
Parce que mon fils est un faible, dit Navani. Ce n'était pas une accusation.
Il n'est pas faible, dit Dalinar. Il manque simplement d'expérience. Mais oui, ça rend la situation idéale pour sa déesse. Il dit la vérité. Il a demandé à être haut prince de l'information parce qu'il veut absolument découvrir qui cherche à tuer Elokar.
Mashallah,
dit Renarin, utilisant le terme formel pour s'adresser à une tante.
Ce fabrial sur votre épaule, que fait-il exactement ?
Navani baissa les yeux vers l'appareil avec un sourire narquois. Dalinar voyait qu'elle avait espéré que l'un d'entre eux lui poserait la question. Dalinar s'assit. La tempête majeure arriverait bientôt.
« Ah ça, c'est un type de fabrial antidouleur. Tiens, je vais te montrer. »
Elle leva sa sage main pour appuyer sur un fermoir qui libérait les pattes semblables à des pinces, puis le retira.
« Est-ce que tu as des douleurs quelque part, mon cher ? Une éraflure, peut-être, ou un orteil que tu aurais cogné ?»
Renarin secoua la tête. « Je me suis froissé un muscle lors de l'entraînement au duel tout à l'heure, » dit Adeline. « Ce n'est pas très grave, mais ça me fait mal. »
« Viens ici, » dit Navani.
Dalinar sourit avec affection. C'était toujours lorsqu'elle jouait avec des fabriaux que Navani était le plus sincère. C'était l'une des rares occasions où l'on pouvait la voir sans affectation. Ce n'était plus Navani la mère du roi, ni Navani l'intrigante politique, c'était Navani l'ingénieur enthousiaste. « Les artis fabriens font des choses extraordinaires, » dit Navani tandis qu'Adeline lui tendait la main.
« Je suis particulièrement fier de ce petit engin. » car j'ai contribué à sa fabrication. »
Elle l'attacha à la main d'Adeline, refermant les pattes autour de sa paume avant de les fixer en place. Adeline leva la main et la retourna.
La douleur a disparu. « Mais ta main n'est pas engourdie, n'est-ce pas ? » demanda Navani d'une voix satisfaite.
Adeline tâta sa paume avec les doigts de l'autre main.
« Non, pas du tout. »
Renarin regardait la scène avec un vif intérêt, le regard intense et curieux derrière ses lunettes. Si seulement le garçon pouvait se laisser persuader de devenir un ardent, alors il pourrait être ingénieur s'il le souhaitait. Et cependant, il refusait. Les raisons qu'il invoquait faisaient toujours à Dalinar l'effet de piètres excuses. « Il est plutôt encombrant, » commenta Dalinar.
« Eh bien, ce n'est qu'un prototype, » répondit Navani sur la défensive. J'ai travaillé à l'envers en partant de l'une de ces affreuses créations d'ombre longue, et je n'ai pas eu le loisir d'en affiner la forme. Je crois qu'il a beaucoup de potentiel. Imaginez quelques-uns de ces engins sur un champ de bataille pour apaiser la douleur des soldats blessés. Imaginez-le dans les mains d'un chirurgien qui n'aurait pas à se soucier de la douleur de ses patients pendant qu'il s'occupe d'eux.
Adeline hocha la tête. Dalinar dut admettre que cet appareil semblait très utile. Navani sourit.
Nous vivons une époque très particulière. Nous apprenons toutes sortes de choses sur les fabriaux. Celui-ci, par exemple, est un fabrial réducteur. Il réduit quelque chose. La douleur, dans ce cas précis. Il ne guérit pas la plaie, mais ça pourrait être un pas dans cette direction. Quoi qu'il en soit, c'est un type de fabrial totalement différent des fabriaux jumelés comme les écocalames. Si vous pouviez voir les plans que nous avons pour l'avenir...
Par exemple ? Demanda Adeline.
« Vous finirez par le découvrir, »
dit Navani avec un sourire mystérieux. Elle reprit le fabrial de la main d'Adoline.
Des lames d'éclat ? Demanda-t-il d'une voix surexcitée.
Eh bien non, répondit Navani. La conception et le fonctionnement des lames d'éclat sont totalement différents de tout ce que nous avons découvert. Ce que nous en avons de plus proche, ce sont ces boucliers de Jacques Evède. Mais pour autant que je sache, ils utilisent un principe totalement différent de la véritable cuirasse d'éclat. Les anciens devaient posséder une incroyable maîtrise de l'ingénierie.
Non, dit Dalinard. Je les ai vus, Navani. Ils sont anciens. Leur technologie est primitive.
Et les cités de l'aube ? Demanda Navani d'un air sceptique. Les fabriaux ?
Dalinard secoua la tête. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Il y a des lames d'éclat dans les visions, mais elles semblent tellement déplacées. Peut-être qu'elles nous ont été données directement par les héros, comme l'affirment les légendes.
Peut-être, répondit Navani. Pourquoi est-ce que...
Elle disparut. Dalinard cligna des yeux. Il n'avait pas entendu la tempête majeure approcher. Il se trouvait à présent dans une grande pièce ouverte aux murs bordés d'énormes colonnes. Elles semblaient sculptées dans du grès tendre, avec des faces granuleuses et dépourvues de toute décoration. Le plafond était très haut, taillé dans la pierre selon des motifs géométriques, qui lui semblaient vaguement familiers. Des cercles reliés par des lignes qui se déployaient vers l'extérieur.
« Je ne sais pas quoi faire, mon vieil ami », déclara une voix à côté de lui.
Dalinard se retourna pour voir un jeune homme vêtu d'une somptueuse robe blanc et or qui marchait les mains jointes devant lui, caché par des manches amples. Il avait les cheveux nattés en arrière ainsi qu'une courte barbe qui se terminait en pointe. Des fils d'or étaient tressés dans ses cheveux et se rassemblaient sur son front pour former un symbole doré, le symbole des chevaliers radieux.
« On raconte que c'est chaque fois la même chose », déclara l'homme. « Nous ne sommes jamais prêts pour les désolations. Nous devrions résister de plus en plus efficacement, au lieu de quoi nous approchons chaque fois un peu plus de la destruction. »
Il se retourna vers Dalinard comme s'il attendait une réponse. Dalinard baissa les yeux. Lui aussi portait une robe d'apparat, bien qu'elle soit moins somptueuse. Où se trouvait-il ? À quelle époque ?
Il lui fallait découvrir des indices que Navani puisse mettre par écrit et que Jasna puisse utiliser pour confirmer ou infirmer la réalité de ses rêves.
« Je ne sais pas quoi dire moi non plus », répondit Dalinard.
S'il voulait des informations, il lui fallait agir plus naturellement que dans ses précédentes visions. L'homme d'allure royale soupira. « J'avais espéré que vous auriez quelques idées à partager avec moi, Carme. » Il marchait toujours vers le côté de la salle, approchant d'un emplacement où le mur s'ouvrait sur un immense balcon à la rambarde de pierre. Dehors, c'était le soir. Le soleil couchant colorait l'or d'un rouge sale et étouffant. « Nos natures mêmes nous détruisent », déclara l'homme d'allure royale d'une voix douce, bien que son visage paraisse furieux. Alakavich était un fluctome ancien. Il aurait dû avoir davantage de bon sens, et cependant, le lien de Naël ne lui a pas donné plus de sagesse que celle d'un homme ordinaire. Hélas, tous les sprennes n'ont pas autant de discernement que les sprennes d'honneur.
« Je suis d'accord, » répondit Dalinard.
L'autre homme sembla soulagé. « Je craignais que vous ne trouviez mes affirmations trop effrontées. Vos propres fluctomanciens étaient... Mais non, nous ne devons pas regarder en arrière. »«
Qu'est-ce qu'un fluctomancien ?» Dalinard avait envie de hurler cette question, mais ce n'était pas possible, pas sans paraître totalement déplacé. « Peut-être que... »
À votre avis, « que faudrait-il faire de ces fluctomes anciens ?» demanda prudemment Dalinard. « J'ignore si nous pouvons les obliger à faire quoi que ce soit. » Leurs pas résonnèrent dans la pièce vide. N'y avait-il ni garde ni serviteur ? Leur pouvoir, eh bien, Alakavich démontre l'attrait que peuvent exercer les fluctomes anciens sur les gens ordinaires. Si seulement il existait un moyen de les encourager.
L'homme s'arrêta et se tourna vers Dalinard.
« Ils doivent s'améliorer, mon vieil ami. Comme nous tous, la responsabilité que nous avons reçue, que ce soit la couronne ou le lien de Naël, doit nous rendre meilleurs. »
Il semblait attendre quelque chose de Dalinard. Mais quoi donc ? « Je lis le désaccord sur votre visage, » dit l'homme d'allure royale. « Ne vous en faites pas, Carme. Je suis bien conscient que mes idées sur ces sujets sont peu conventionnelles. Peut-être que vous avez tous raison, que nos capacités sont la preuve d'un choix divin. Mais si c'est exact, ne devrions-nous pas nous montrer plus prudents vis-à-vis de nos actions ?» Dalinar fronça les sourcils. Ses propos lui semblaient familiers. L'autre homme soupira puis se dirigea vers le bord du balcon. Dalinar le rejoignit et sortit. Il put alors baisser les yeux vers le paysage. Des milliers de cadavres lui firent face. Dalinar eut le souffle coupé. Dehors, les morts jonchaient les rues de la cité, une cité que Dalinar reconnaissait vaguement. « Kolinar, songea-t-il, ma patrie. » Il se tenait avec l'autre homme au sommet d'une tour basse, à 3 étages, une sorte de donjon bâti en pierre. Il semblait occuper l'emplacement où se dresserait un jour le palais. La cité était nettement reconnaissable, avec ses formations rocheuses pointues se dressant dans les airs à la façon d'énormes nageoires. Les lames du vent, comme on les appelait. Mais elles étaient moins érodées que celles qu'il connaissait, et la ville autour était très différente, composée d'édifices de pierres massifs dont beaucoup avaient été démolis. La destruction s'étendait loin, le long des rues primitives. La ville avait-elle été frappée par un tremblement de terre? Non. Ses corps étaient tombés au combat. Dalinar sentait la puanteur du sang, des viscères, de la fumée. Les cadavres jonchaient le sol, dont beaucoup près du mur bas qui entourait le donjon. Le mur était brisé par endroits, fracassé, et il y avait des rochers de forme étrange éparpillés parmi les cadavres, des pierres taillées comme « sang de mes pères », songea Dalinar en agrippant la rambarde de pierre et en se penchant. « Ce ne sont pas des pierres, ce sont des créatures. Des créatures massives, qui faisaient bien 5 ou 6 fois la taille d'un homme, à la peau grise et terne comme le granit. Elles possédaient de longs membres et des corps squelettiques, et leurs pattes avant, à moins que ce ne soit des bras, étaient fixées à de larges épaules. Leur visage était mince et étroit, évoquant des têtes de flèches. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Dalinar malgré lui. « C'est affreux. »
« Je me pose moi-même cette question. Comment avons-nous pu laisser ces événements se produire ?» Les désolations portent bien leur nom. J'ai entendu les premiers chiffres. 11 années de guerre, et des gens sur qui je régnais. 9 sur 10 sont morts. Nous reste-t-il seulement des royaumes à gouverner?
Sûr a disparu, j'en suis persuadé. Tarma, Élise ne vont sans doute pas survivre. Leurs habitants sont morts en trop grand nombre. Dalinar n'avait jamais entendu parler de ces endroits. L'homme serra le poing, martela doucement la rambarde. Des bûchers avaient été dressés au loin. On avait commencé à faire brûler les corps. Les autres veulent en faire endosser la faute à Alakavish. Et il est vrai que s'ils ne nous avaient pas menés en guerre avant la désolation, nous n'aurions pas été brisés à ce point. Mais Alakavish était le symptôme d'un mal plus grand. La prochaine fois que les héros reviendront, que trouveront-ils? Un peuple qui les a de nouveau oubliés? Un monde déchiré par la guerre et les disputes. Si nous continuons ainsi, alors peut-être que nous méritons de perdre.
Dalinar eut un frisson. Il avait cru que cette vision se déroulait après la précédente, mais les visions antérieures n'étaient pas chronologiques. Il n'avait pas encore vu de chevalier radieux, mais ce n'était peut-être pas parce qu'il s'était séparé. Peut-être qu'il n'existait pas encore. Et peut-être y avait-il une raison si ces mots semblaient si familiers? Était-ce possible? Se pouvait-il vraiment qu'il se tienne près de l'homme même dont il avait si souvent écouté les paroles?
« Il y a de l'honneur dans la défaite, » déclara prudemment Dalinar, citant des mots répétés plusieurs fois dans la voix des rois.
« Si cette défaite apporte le savoir, »
l'homme sourit.
On utilise encore mes propres paroles contre moi, Carm?
Dalinar en eut le souffle coupé. C'était lui, Noadon, le grand roi. Il existait donc, ou du moins il avait existé.
Cet homme était plus jeune que Dalinar ne l'avait imaginé, mais ce port humble, quoique royal. Oui, c'était bien lui. « J'envisage de renoncer à mon trône, » dit doucement Noadon. « Non !» Dalinar s'avança vers lui. « Vous ne devez pas. »«
Je ne peux pas les diriger, » répondit l'homme. « Pas si c'est là ce à quoi mène mon autorité. »
« Noadon !» L'homme se retourna vers lui, l'air songeur.
« Qu'y a-t-il ? »
Dalinar hésita. Se pouvait-il qu'il se trompe sur l'identité de cet homme ? Mais non. Le terme de Noadon était plutôt un titre. De nombreux hommes célèbres par le passé avaient reçu de l'Église des noms sacrés, puis cette habitude avait cessé. Même Bajerden ne devait pas être son véritable nom. Il avait dû se perdre avec le temps.
« Ce n'est rien, » dit Dalinar. « Vous ne pouvez pas renoncer à votre trône. Le peuple a besoin d'un dirigeant. »«
Il a des dirigeants, » répondit Noadon. « Il y a des princes, des rois, des spiricantes, des fluctomanciens.
Nous ne manquons jamais d'hommes ni de femmes qui souhaitent gouverner. »«
C'est exact, » dit Dalinar. « Mais nous manquons d'hommes et de femmes qui soient doués pour le faire. »
Noadon se pencha par-dessus la rambarde. Il regarda fixement les morts, avec sur le visage une expression de profonde douleur et de grand trouble. C'était tellement étrange de voir cet homme ainsi. Il était si jeune. Dalinar n'avait jamais imaginé chez lui une telle insécurité, un tel tourment.
« Je connais ce sentiment, » dit doucement Dalinar. « L'incertitude, la honte, la confusion.
Vous lisez trop bien en moi, mon vieil ami.
Je connais ces émotions parce que je les ai éprouvées. Je n'ai jamais cru que vous les ressentiriez, vous aussi.
Dans ce cas, je rectifie. Peut-être que vous ne me connaissez pas assez bien. »
Dalinar ne répondit pas. « Alors, que dois-je faire ?» demanda Noadon.
« C'est à moi que vous posez cette question ?»«
Vous êtes mon conseiller, n'est-ce pas ? Eh bien, j'aimerais quelques conseils. »
« Je... vous ne pouvez pas renoncer à votre trône. »
« Et que devrais-je en faire ?»
Noadon se retourna et se mit à longer le balcon. Celui-ci semblait faire tout le tour de l'étage. Dalinar se joignit à lui. Par endroits, la pierre était brisée, la rambarde démolie.
« Je n'ai plus foi en l'humanité, mon vieil ami, » dit Noadon.
« Mettez deux hommes ensemble et ils trouveront un sujet de dispute. » « Rassemblez-les en groupe, et l'un des groupes trouvera une raison d'en opprimer ou d'en attaquer un autre. Et maintenant, ceci.
Comment puis-je les protéger? Comment empêcher que ça se reproduise ?»«
Dictez un livre, » dit Dalinar d'une voix enthousiaste, « un grand livre qui donnera espoir aux gens, qui expliquera votre philosophie sur la façon de diriger les hommes et celle dont la vie devrait être vécue. »«
Un livre ?»
« Moi, écrire un livre ?»«
Pourquoi pas ?»«
Parce que c'est une idée d'une incroyable bêtise !»
Dalinar en resta bouche bée.
« Le monde que nous connaissons a presque entièrement été détruit, » reprit Noadon. « Il n'existe presque aucune famille qui n'ait perdu la moitié de ses membres. Nos meilleurs hommes sont des cadavres sur ce champ de bataille, et nous n'avons de nourriture que pour tenir 2 ou 3 mois dans le meilleur des cas. » Et je devrais passer mon temps à écrire un livre? Qui le rédigerait pour moi? Tous mes hommes de lettres ont été massacrés quand Yelignar a pénétré de force dans la chancellerie. Vous êtes le seul homme de lettres encore vivant que je connaisse.
Un homme de lettres? Une étrange époque, en effet.
Dans ce cas, je pourrais l'écrire.
Avec un bras? Avez-vous appris à écrire de la main gauche dans ce cas?
Dalinar baissa les yeux. Il possédait ses 2 bras, mais l'homme que voyait Noadon avait apparemment perdu le droit.
« Non, » reprit Noadon, « nous devons reconstruire. Je regrette seulement qu'il n'existe aucun moyen de convaincre les rois, ceux qui sont encore en vie, de ne pas chercher à prendre l'avantage les uns sur les autres. » Noadon martela la rambarde. « La décision m'appartient donc. Me retirer ou faire le nécessaire. Ce n'est pas le moment d'écrire, c'est le moment d'agir, et ensuite, malheureusement, le moment de prendre les armes.
Les armes, songea Dalinar. Et c'est vous qui dites ça, Noadone ? Ça n'allait pas se produire. Cet homme deviendrait un grand philosophe. Il enseignerait la paix et le respect des autres, et n'obligerait pas les hommes à obéir selon ses désirs. Il les guiderait pour qu'ils agissent avec honneur. Noadone se tourna vers Dalinar. « Veuillez me pardonner, Carme. Je ne devrais pas ignorer vos conseils juste après vous en avoir demandé. Je suis à cran, comme j'imagine que nous le sommes tous. Parfois, j'ai le sentiment qu'être humain revient à souhaiter ce que nous ne pouvons pas avoir. Pour certains, c'est le pouvoir. Pour moi, c'est la paix. »
Noadone se retourna pour longer le balcon en sens inverse. Bien qu'il avance lentement, sa posture indiquait clairement qu'il souhaitait être seul. Dalinar le laissa partir.
Il devient ensuite l'un des auteurs les plus influents que Rochard ait jamais connu, dit Dalinar.
Seul le silence lui répondit, à l'exception des cris des hommes qui s'activaient en bas à ramasser les corps.
« Je sais que vous êtes là, » déclara Dalinar. Silence.
« Quelle décision prend-il ? » demanda Dalinar.
« Les a-t-il unis comme il le voulait ?»
La voix qui parlait souvent dans ses visions ne s'éleva pas. Dalinar ne reçut aucune réponse à ses questions. Il soupira et se retourna pour regarder le champ de cadavres.
« Vous avez raison sur une chose au moins, Noadone. Être humain, c'est vouloir ce que nous ne pouvons pas avoir. »
Le paysage s'assombrit lorsque le soleil se coucha. Cette obscurité l'enveloppa et il ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il était de retour dans ses appartements, debout, les mains sur le dossier d'un fauteuil. Il se tourna vers Adoline et Rénarine qui attendaient tout près, inquiets, prêts à le saisir s'il devenait violent.
« Eh bien, » dit Dalinar, « c'était inutile. Je n'ai rien appris. Bourrasque, je fais un piètre !»«
Dalinar !» l'interrompit brusquement Navani, sans cesser de griffonner sur sa page à l'aide d'un calame. « La dernière chose que vous avez dite avant la fin de la vision, qu'est-ce que c'était ?»
Dalinar fronça les sourcils. « La dernière ?»«
Oui, » dit Navani d'une voix insistante, « les tout derniers mots que vous avez prononcés. »
« Je citais l'homme avec lequel je parlais. Être humain, c'est vouloir ce que nous ne pouvons pas avoir.
Pourquoi ?» Elle l'ignora et continua à écrire furieusement. Lorsqu'elle en eut fini, elle se laissa glisser de la chaise haute et se précipita vers la bibliothèque. « Avez-vous un exemplaire de... »
« Oui, je me doutais que vous en auriez.
Ce sont les livres de Jasna, n'est-ce pas ?»«
Oui, » répondit Dalinar. Elle voulait qu'on s'en occupe jusqu'à son retour.
Navani tira un volume d'une étagère. « Les Analectes de Corvana. » Elle posa le livre sur le secrétaire et se mit à le feuilleter. Dalinar la rejoignit, bien qu'il ne puisse évidemment rien comprendre au contenu de la page.
« En quoi est-ce important ?»«
Là !» dit Navani, levant les yeux vers Dalinar. « Quand vous pénétrez dans vos visions, vous savez que vous parlez ?»
Des propos sans queue ni tête. Oui, mes fils me l'ont dit.
Anak Malakaf del Makian Abinya, dit Navani. Est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Dalinar secoua la tête, décontenancé.
Ça ressemble beaucoup à ce que disait Père,
intervint Rénarin, pendant qu'il avait cette vision.
Ce n'est pas que ça ressemble beaucoup, dit Navani d'un air suffisant.
« C'est exactement la même phrase. C'est la dernière chose que vous ayez dite avant de sortir de votre transe. J'ai entièrement écrit de mon mieux tout votre charabia d'aujourd'hui. »«
Dans quel but ?» demanda Dalinar.
« Parce que, » répondit Navani, « je pensais que ça se révélerait peut-être utile, ce qui a été le cas. Cette même phrase figure dans les Analectes, presque au mot près.
Quoi ?» demanda Dalinar, incrédule.
« Comment ?»« C'est un extrait d'une chanson, » répondit Navani. « Un chant des Vanrial, un ordre d'artistes qui vivent sur les pentes du Mont Silence de Jacques Évède. Année après année, siècle après siècle, ils ont chanté ces mêmes mots, des chansons dont ils affirmaient qu'elles avaient été écrites en chant de l'aube par les héros eux-mêmes. Ils connaissent les paroles de ces chants, rédigées dans un alphabet ancien,
mais le sens en a été perdu. Ce ne sont plus que des mots désormais. Certains érudits pensent que cet alphabet, et les chansons elles-mêmes, sont peut-être effectivement du chant de l'aube. « Et je, » dit Dalina, « vous venez d'en citer un extrait, » répondit Navani. Par ailleurs, si la phrase que vous venez de prononcer est correcte, vous l'avez traduite, ce qui pourrait prouver l'hypothèse d'Evanrial. Une phrase, ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait nous fournir la clé nécessaire pour traduire tout cet alphabet. Ça me titille depuis un moment en écoutant ces visions. Il me semblait bien que vos propos étaient trop ordonnés pour du charabia. Elle regarda Dalinar avec un large sourire. Dalinar, vous venez peut-être de percer l'un des mystères les plus déroutants et les plus anciens de tous les temps. Attendez, dit Adeline. Qu'êtes-vous en train de dire ?
Ce que je dis, mon neveu, répondit Navani en le regardant bien en face, c'est que nous tenons ta preuve.
Mais, dit Adeline, enfin, il pourrait avoir entendu cette phrase quelque part et extrapoler toute une langue à partir de là ? Demanda Navani en brandissant une page couverte d'écriture.
« Ce n'est pas du charabia. C'est une langue que plus personne ne parle actuellement. Je soupçonne que c'est ce que ça paraît être. Du chant de l'aube.
Donc, à moins que tu ne vois une autre manière dont ton père aurait pu apprendre à parler une langue morte, Adeline,
ces visions sont tout à fait réelles. »
Le silence retomba dans la pièce. Navani elle-même semblait stupéfaite de ce qu'elle venait de dire. Elle se reprit rapidement.
« Maintenant, Dalinar, dit-elle, je veux que vous me décriviez cette vision le plus précisément possible. Il me faut les mots exacts que vous avez prononcés, si vous parvenez à vous en souvenir. Chaque fragment que nous recueillerons permettra à mes érudites de décrypter l'ensemble. »